en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Bonjour, merci de m'accueillir. C'est l'histoire de la grande cuisine française dans le monde. Je dis grande cuisine parce que c'est mieux que cuisine française. Et au risque de vous surprendre, je voudrais commencer par vous dire un mot de la cuisine péruvienne. Curieuse façon, me direz-vous, d'aborder la question de la cuisine française dans le monde. Certes, nous allons faire un petit détour, mais ce petit détour en vaut la peine. Début septembre, j'étais donc à Lima pour prendre la parole pour l'ouverture d'un grand événement national et international qui s'appelle Mistour. C'était la 6e édition de la rencontre, et cette rencontre a pris une dimension inégalée en Amérique du Sud et dans le monde. Des dizaines de cuisiniers du Pérou, de l'Amérique latine et du reste du monde se sont retrouvés là pendant 4 jours. Un grand marché d'une centaine de producteurs, agriculteurs, maraîchers, éleveurs, a reçu la visite de dizaines de milliers de curieux. La cheville ouvrière de cet événement s'appelle Gaston Acurio. Il possède une 30aine de restaurants, dont la majorité se trouve bien sûr en Amérique du Sud, en Amérique latine en particulier, mais aussi aux États-Unis, et il commence à s'installer sérieusement en Europe en commençant par Londres et Madrid. Je dois juste mentionner que cet homme a appris la cuisine à Paris. Cette anecdote pour vous dire 2 choses. D'abord, probablement, vous ne connaissez pas Mistour, ni Gaston Acurio, ni la nouvelle cuisine andine qu'il a inventée et dont il se fait le porte-parole et le héros. Ensuite, et plus sérieusement, je raconte cette anecdote pour vous donner une idée de la scène culinaire mondiale. La cuisine française dans le monde, certes, mais je vais y venir. Mais parlons un peu du monde tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire totalement globalisé, je dirais mondialisé, très multipolaire et complètement communicant. Des anecdotes comme celle de Mistour, je pourrais vous en raconter beaucoup d'autres. Connaissez-vous MAD ? Encore un grand événement mondial de la cuisine d'aujourd'hui. Il se tient tous les ans au Danemark, en août. J'y ai trouvé cet été des collègues de Chine, des États-Unis, d'Europe que je connais bien, et de nombreux journalistes de partout dans le monde. Je vous donne ces 2 exemples, l'un péruvien, l'autre danois, pour illustrer un fait majeur de la scène culinaire mondiale d'aujourd'hui. Comme je vous le disais à l'instant, il est multipolaire. Vous n'auriez probablement jamais pensé, ni au Pérou, ni au Danemark, comme étant aujourd'hui des foyers actifs de la cuisine contemporaine. Eh bien si, le Pérou, le Danemark, le Brésil et bien d'autres sont à présent sur la carte du monde de la cuisine, et je peux vous garantir qu'ils ne se laissent pas impressionner par les vieux pays. Voici donc en quelques mots le paysage dans lequel il faut situer la cuisine française. Un contexte incroyablement global, dynamique, innovant et concurrentiel. Mais vous imaginez bien que je ne trace pas ce portrait du monde pour en conclure la fin de l'histoire de la cuisine française. Bien au contraire. Après ce détour géographique, faisons à présent un petit détour historique. Rassurez-vous, je ne vous infligerai pas un développement historique remontant la nuit des temps. Je suis incapable, d'excellents auteurs l'ont fait mieux que moi, mieux que je ne saurais le faire. Et je voudrais juste souligner un point qui me semble important pour la suite. La cuisine française a une longue ouverture et une longue pratique de l'ouverture au monde. Il faut tout de même signaler ici un grand précurseur, Auguste Escoffier, à la charnière du 19e et du 20e siècle. Il est né en 1846 et mort en 1935. Escoffier a inventé et surtout codifié les bases du métier de cuisinier tel que nous le pratiquons aujourd'hui partout dans le monde. Je ne parle pas seulement de recettes, encore qu'on lui attribue quelques belles trouvailles comme la pêche melba. Je pense aux extraordinaires innovations qu'il a apportées dans la pratique de notre métier. C'est lui qui a inventé, par exemple, la notion de brigade, c'est-à-dire l'organisation des cuisiniers en équipe spécialisée qui permet de rationaliser la préparation des plats. Et surtout, Escoffier a voyagé. Le monde de l'époque était plus petit, bien sûr. Dans les années 1880, il se partage entre Paris, Cannes, Monte-Carlo, Lucerne. Puis, dans les années 1890, à la suite de sa rencontre avec César Ritz, il va à Londres. Son ouverture sur le monde le conduit même à mettre sur pied une sorte de pari un peu fou, les dîners d'Épicure, qui consiste à organiser le même repas, le même jour, dans différentes villes du monde pour faire rayonner la cuisine française. Hélas, l'opération commence en 1912, mais ne dure que 2 ans. Le dernier dîner a lieu, mais il réunit tout de même 10 000 personnes dans 147 villes. Je me sens personnellement, en tant que cuisinier français, très redevable à Escoffier pour la volonté tenace dont il a fait preuve pour accorder la cuisine à son époque et faire apprécier la cuisine française. Mais j'ai promis que ce détour historique ne serait pas trop long, dont je saute quelques décennies, et je vous propose de vous transporter au début des années 1970. Ce sont les années de mes débuts dans ce métier. Je suis chez Michel Guérard, une grande figure de la nouvelle cuisine de l'époque. L'expression aurait été utilisée pour la première fois en 1973 dans la revue Gotemillo. Michel Guérard fait partie de ce que certains ont appelé la bande à Bocuse, Pierre et Jean Troisgros, Michel Guérard, Alain Senderens, Gaston Lenôtre, Paul Héberlin et quelques autres, une bande de copains bien plus qu'une école à l'époque. Et toute la bande voyage allègrement. Il existe une photo qui les montre en partance pour les États-Unis, au pied du Concorde, dans lequel ils s'apprêtent à embarquer. Littéralement la baguette sous le bras et à leurs pieds des malles dans lesquelles sont empilés tous les produits français qu'ils utiliseront lors de leur démonstration. Non seulement ces jeunes chefs bousculent les traditions dans leur pays, mais en plus, ils portent la bonne parole dans le monde entier. Le monde de l'époque est sensiblement plus grand que celui d'Escoffier, mais n'a pas encore atteint la dimension qu'on lui connaît aujourd'hui. Cuisiniers voyageurs, ils sont les héritiers de la tradition de la cuisine française. J'ajoute au passage qu'il ne s'agit pas que d'exporter. Certains d'entre eux reviennent du Japon avec quelques idées et s'inspirent volontiers. Par exemple, des magnifiques techniques de dressage, des assiettes typiquement japonaises, ou encore des cuissons très courtes, des légumes et du poisson, caractéristiques elles aussi de la cuisine japonaise. On entre donc dans une époque où la cuisine française n'est plus la seule au monde. C'est ici que se situe le grand défi de la cuisine française du XXIe siècle. Son rayonnement multiséculaire fait qu'elle est connue partout. En même temps, l'arrivée de nouveaux acteurs qui veulent se faire une place fait qu'elle est parfois mise en cause. La longue lignée des Carême, Escoffier, Bocuse a donné à la haute cuisine française une prééminence qui est restée longtemps indiscutée. Récemment, cette longue histoire a parfois été présentée par certains, paradoxalement, comme un handicap plutôt qu'un avantage. Il faudrait s'émanciper des normes, il faudrait faire du nouveau à tout prix. La gastronomie française deviendrait synonyme de manière de table complexe et compassée dont il faudrait s'affranchir. La prééminence serait devenue une insupportable révérence. Il faut regarder cette critique avec précaution. Elle a une part de vérité. La cuisine française a exporté un modèle très différent de la cuisine italienne ou de la cuisine asiatique. Un restaurant français à Londres, New York ou Tokyo est presque à coup sûr un restaurant chic et cher. Et le client, notamment américain, est rapidement intimidé par le nom des plats, l'ordonnancement du repas, le choix des vins, les manières de table. Tout ceci nourrit la réputation d'arrogance qui est généralement reprochée aux Français dans les pays anglo-saxons. Ce n'est pas valable que dans la cuisine, d'ailleurs. En tout cas, les années passant, la cuisine française s'est forgée une image de cuisine pour l'élite fortunée qui, au fil du temps, s'est retrouvée en décalage avec des façons de se nourrir plus décontractées. Mais il ne faut pas non plus être naïf. Quand je voyais dans la presse anglo-saxonne, il y a quelques années, faire ses gros tweets sur la mort annoncée de la cuisine française et l'avènement de la cuisine espagnole, je ne pouvais m'empêcher de sourire. Curieux hasard, c'est à peu près le moment où, aux États-Unis, les French fries étaient baptisés Freedom Fries. Qu'elle le veuille ou non, la cuisine a décidément partie liée avec la géopolitique. Bref, complètement ou partiellement fondée, la prééminence de la cuisine française est discutée. Pourtant, les faits sont là. La France est la première école de cuisine au monde. Pratiquement tous les cuisiniers de renom sur la scène mondiale sont passés pendant leur formation dans des cuisines françaises, que ce soit en France ou à l'étranger. Je parlais à l'instant du péruvien Gaston Acorio. Il a appris la cuisine en France. Je pourrais citer le très médiatique et très talentueux catalan Ferran Adrià. Il a appris la cuisine en France. Ou l'italien iconoclaste Massimo Bottura. Ou l'écossais Tom Kitchen. Ou le brésilien Alex Atala. Ou l'américain Dan Barber. Je pourrais continuer ainsi longtemps cette liste. Je constate personnellement cette attractivité dans mes établissements, où je compte en permanence dans le monde une quarantaine de nationalités différentes dans le personnel de mes restaurants, alors que je ne suis présent que dans moins de 10 pays. Cette situation n'est pas exceptionnelle. J'ai procédé récemment à un sondage parmi mes confrères. Ils font état de chiffres comparables. Tous les ans, les grands chefs français accueillent et forment dans leur cuisine des dizaines de cuisiniers étrangers. On pourrait ajouter que cette attractivité de la cuisine française ne se joue pas seulement à l'export. Beaucoup de cuisiniers étrangers viennent s'installer en France et y font une cuisine française remarquable. Un exemple, Kei Kobayashi, comme son nom le laisse deviner, ce jeune homme est japonais. Il est né à Nagano, dans une famille de cuisiniers. Tout jeune, il voit une émission de télévision sur la cuisine française et il ne pense plus qu'à une chose, c'est cette cuisine-là qu'il veut faire, qu'il veut apprendre. Pour cela, il vient en France et quelques années plus tard, il devient sous-chef de mon restaurant du Plaza Athénée à Paris. Aujourd'hui, il s'est installé à son compte du côté des Halles. Il y fait d'ailleurs une cuisine française magnifique. Tous ces cuisiniers qui viennent s'installer en France pour faire de la cuisine française contribuent eux aussi au rayonnement de notre patrimoine. Et ils constituent une très belle preuve de l'attractivité de notre cuisine. Première école de cuisine au monde, la cuisine française est aussi la référence indiscutée en termes d'organisation de travail. Comme je l'évoquais il y a un instant, tous les restaurants dans le monde ont adopté le système des brigades mis au point par Escoffier. Enfin et surtout, la cuisine française est une référence en matière technique. Elle dispose par exemple de la palette la plus large de modes de cuisson, grillés, sautés, rôtis, poêlés, mijotés, à l'étouffée, pochés, etc. Sans que cette liste ne soit limitative, je dirais à l'image de la cuisine chinoise, là où les autres traditions culinaires n'utilisent qu'un petit nombre de techniques. Elle a inventé aussi une gamme unique et très élaborée de sauces, bouillons, jus, fumées, marinades, émulsions. Elle maîtrise parfaitement la technique de la concentration des saveurs. Enfin, la cuisine française travaille une gamme très étendue de produits, de saveurs et de textures avec laquelle seule la cuisine asiatique peut rivaliser. Cette base technique possède une qualité essentielle, l'adaptabilité. Je citais tout à l'heure le nom du Brésilien Alex Atala. Alex fait un travail remarquable qui consiste aujourd'hui à redécouvrir les produits de son terroir, notamment de l'Amazonie, avec laquelle il a des liens affectifs forts. Mais il le dit lui-même quand il s'agit ensuite de les cuisiner dans son restaurant de San Paolo, il utilise les techniques françaises. Et il le fait parce que ce sont elles qui sont les plus à même à s'adapter à tous les produits et à faire une cuisine aux standards internationaux. D'une façon générale, dans tous les pays émergents sur la scène culinaire mondiale, utilisent des techniques françaises qui, appliquées aux produits et aux traditions culinaires locales, leur permettent d'inventer leur propre expression culinaire nationale. Je vous donnerai un autre exemple plus personnel. Il y a quelques mois, j'ai ouvert un restaurant à Doha, au Qatar. J'ai procédé selon mon habitude, c'est-à-dire que j'ai commencé par m'imprégner des traditions culinaires locales et à partir à la recherche des produits locaux. Ils sont certes pas nombreux, mais on les a trouvés. Parmi eux, j'ai ramené un chameau, en fait un chamelon, c'est-à-dire un jeune chameau. Inutile de vous dire que je n'avais jamais cuisiné le chameau de ma vie. Mais j'ai à ma disposition une palette de techniques, les techniques culinaires françaises. J'ai donc trouvé la solution. Il y a aujourd'hui à la carte du restaurant de Doha un chameau façon Rossini qui rencontre, je dois le dire, un franc succès. Pardon d'être chauvin, un instant, mais je pose la question. Quelle haute cuisine offre ainsi un corpus de techniques qui peuvent s'adapter aussi bien aux produits amazoniens qu'aux produits moyen-orientaux? De fait, ni la cuisine italienne, ni la cuisine asiatique, deux cuisines pour lesquelles j'ai par ailleurs infiniment de respect, d'affection, n'en sont malheureusement pas capables. Former et attirer les talents étrangers, fournir les bases de l'organisation et des techniques. Il n'y a pas une seule cuisine au monde qui peut afficher ce genre de résultats. Nous n'avons décidément pas besoin d'avoir de complexes. La cuisine française ne réussit pas si mal. Inutile de céder à la tentation nationale de l'autodénigrement. C'est un sport national en ce moment. Pour autant, faut-il nous reposer sur nos lauriers ? Évidemment, non. La cuisine est devenue une industrie où la concurrence est rude. Lorsqu'une grande chaîne hôtelière ou un grand acteur de l'industrie du loisir cherche un consultant pour créer un restaurant, il y aura toujours nécessairement un Français dans la consultation. Mais pas seulement. Lorsqu'un jeune veut suivre une formation en cuisine, il pensera toujours école française. Mais pas seulement, il peut aussi se tourner vers des écoles américaines ou suisses. Encore une fois, nous ne sommes plus seuls au monde. La cuisine française doit donc s'adapter à ce nouveau contexte. C'est pour favoriser cette mutation que j'ai réuni autour de moi une douzaine de confrères. Alain Dutournier, Gilles Goujon, Michel Guérard, Marc Héberlin, Régis Marcon, Thierry Marc, Gérald Passeda, Laurent Petit, Anne-Sophie Pic, Guy Savoie, Pierre Troigot, au sein du Collège culinaire de France. Paul Bocuse a accepté d'en prendre la présidence d'honneur et Joël Robuchon de co-animer cette association avec moi. Je tiens beaucoup à cette initiative car elle se donne comme premier objectif de jouer collectif. Un objectif essentiel pour faire progresser l'ensemble de la profession. Je ne vais pas développer ici notre programme d'action. Disons simplement qu'il s'agit de renforcer la présence de la cuisine française sur la scène internationale et d'accentuer nos efforts de transmission, de formation. Pour conclure, je dirai ma confiance dans la capacité de la cuisine française à garder sa place dans le monde. Bien sûr, elle ne s'imposera plus sur le mode de la domination exclusive, indiscutée et sans partage. Pour être franc, je ne le regrette pas, car ce genre d'attitude appartient à une époque révolue. En revanche, elle gardera toute sa place en adoptant une posture d'influence, une attitude plus respectueuse, plus moderne et en réalité plus féconde. Merci de votre attention.